qui monte des herbages, et par un gracieux enchantement, le champ semble être un lac ou un pré couvert de neige. Ainsi, cette campagne, la plus riche de France, qui avec son abondance intarissable de fermes, de vaches, de crèmes, de pommiers à cidre, de gazon épais, n'invite qu'à manger et à dormir, se pare la nuit venue de quelques mystères et rivalise de mélancolie avec la grande plaine de la mer. Enfin, il y a quelques habitations tout à fait désirables, les unes assaillies par la mer et protégées contre elle, d'autres perchées sur la falaise, au milieu des bois, ou s'étendant largement sur des plateaux herbeux. Je ne parle point des maisons orientales ou persanes qui plairaient mieux à Téhéran, mais surtout des maisons normandes, en réalité moitié normande, moitié anglaise, où l'abondance des épis de faîtage multiplie les points de vue et complique la silhouette où les fenêtres tout en largeur ont tant de douceur et d'intimité, où des jardinières faites dans le mur sous chaque fenêtre, des fleurs pleuvent inépuisablement sur les escaliers extérieurs et sur les halls vitrés. C'est là que je rentre car la nuit tombe et je vais relire pour la 100e fois le Confiteor du poète Gabriel Trarieux.
Donc voilà, les choses normandes.
Les choses normandes avec les maisons à la fois normandes, à la fois anglaises. Donc anglo-normandes.
Voilà. Enfin, sachant que c'est les Anglais qui ont copié sur nous. Hein,
bien sûr.
Enfin, c'est parce qu'on est allé les envahir, alors... Alors, maintenant, je vous propose d'écouter un autre texte qui, lui, est bel et bien dans les plaisirs et les jours. Donc, c'est dans le chapitre 4 de Rêverie de couleur du temps.
Oui.
Et cet extrait s'appelle « Famille écoutant de la musique ».
Pour une famille vraiment vivante, où chacun pense, aime et agit, avoir un jardin est une douce chose. Les soirs de printemps, d'été et d'automne, tous, la tâche du jour fini, y sont réunis. Et si petit que soit le jardin, si rapproché que soient les haies, elles ne sont pas si hautes qu'elles ne laissent voir un grand morceau de ciel, où chacun lève les yeux sans parler, en rêvant. L'enfant rêve à ses projets d'avenir, à la maison qu'il habitera avec son camarade préféré pour ne le quitter jamais, à l'inconnu de la terre et de la vie. Le jeune homme rêve au charme mystérieux de celle qu'il aime, la jeune mère à l'avenir de son enfant, la femme autrefois troublée découvre au fond de ses heures claires, sous les dehors froids de son mari, un regret douloureux qui lui fait pitié. Le père, en suivant des yeux la fumée qui monte au-dessus d'un toit, s'attarde aux scènes paisibles de son passé qu'enchante dans le lointain la lumière du soir. Il songe à sa mort prochaine, à la vie de ses enfants après sa mort, et ainsi l'âme de la famille entière monte religieusement vers le couchant, pendant que le grand tilleul, le marronnier ou le sapin répand sur elle la bénédiction de son odeur exquise ou de son ombre vénérable. Mais pour une famille vraiment vivante, où chacun pense, aime et agit, pour une famille qui a une âme, qu'il est plus doux encore que cette âme puisse le soir s'incarner dans une voix, dans la voix claire et intarissable d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui a reçu le don de la musique et du chant. L'étranger, passant devant la porte du jardin où la famille se tait, craindrait en approchant de rompre en tout comme un rêve religieux. Mais si l'étranger, sans entendre le chant, apercevait l'assemblée des parents et des amis qui l'écoutent, combien plus encore elle lui semblerait assister à une invisible messe. C'est-à-dire, malgré la diversité des attitudes, combien la ressemblance des expressions manifesterait l'unité véritable des âmes, momentanément réalisée par la sympathie pour un même drame idéal, par la communion à un même rêve. Par moments, comme le vent courbe les herbes et agite longuement les branches, un souffle incline les têtes ou les redresse brusquement. Tous, alors, comme si un messager qu'on ne peut voir faisait un récit palpitant, semble attendre avec anxiété, écouter avec transport ou avec terreur une même nouvelle qui pourtant éveille en chacun des échos divers. L'angoisse de la musique est à son comble. Ses élans sont brisés par des chutes profondes suivies d'élans plus désespérés. Son infini lumineux, Ces mystérieuses ténèbres, pour le vieillard, ce sont les vastes spectacles de la vie et de la mort. Pour l'enfant, les promesses pressantes de la mer et de la terre. Pour l'amoureux, c'est l'infini mystérieux. Ce sont les lumineuses ténèbres de l'amour. Le penseur voit sa vie morale se dérouler tout entière. Les chutes de la mélodie défaillante sont ses défaillances et ses chutes, et tout son cœur se relève et s'élance quand la mélodie reprend son vol. Le murmure puissant des harmonies fait tressaillir les profondeurs obscures et riches de son souvenir. L'homme d'action halète dans la mêlée des accords au galop des vivaces. Il triomphe majestueusement dans les adagios. La femme infidèle elle-même, sans sa faute pardonnée, infinisée, sa faute qui avait aussi sa céleste origine dans l'insatisfaction d'un cœur que les joies habituelles n'avaient pas apaisé, qui s'était égaré. Mais en cherchant le mystère, et dont maintenant cette musique, pleine comme la voix des cloches, comble les plus vastes aspirations. Le musicien, qui prétend pourtant ne goûter dans la musique qu'un plaisir technique, y éprouve aussi ses émotions significatives, mais enveloppées dans son sentiment de la beauté musicale qui les dérobe à ses propres yeux. Et moi-même, enfin, écoutant dans la musique la plus vaste et la plus universelle beauté de la vie et de la mort, de la mer et du ciel, j'y ressens aussi ce que ton charme a de plus particulier et d'unique, ô cher bien-aimé.
Là encore, hein, tout, dans un extrait précédent, on avait l'olfaction, hein, qui évoquait des tas de choses dans la pensée du narrateur. Et là, c'est Louis. Hein, on voit bien qu'il est avec tout le temps Proust avec les cinq sens qui permettent finalement une sorte d'introspection. Donc, c'est quand même très psychologique tout ça. Hein. Non, mais à l'époque, je pense que c'était un peu nouveau lier les émotions, les sens, et puis la mémoire qui d'un seul coup se développe à partir d'une sensation.
Bah ouais, ouais. Et je te disais tout à l'heure, ça me faisait penser un peu à Virginia Woolf, justement, hein, avec justement tous ces.
J'étais en plein accord.
En fait, à partir de 1899, délaissant la rédaction de son premier roman, Jean Santeuil, qu'il avait engagé quelques années plus tôt, il part en voyage à Venise, où il séjourne avec sa mère, en mai 1900, à l'hôtel Danieli, où logèrent autrefois Alfred de Musset et George Sand. Il découvre les œuvres d'art en suivant les pas de John Ruskin, sur qui il publie des articles et dont il traduit deux livres, La Bible d'Amiens et Sésame et les Lys.
Alors, un tout petit mot sur John Ruskin, qui était un écrivain, poète, critique d'art britannique, qui a enseigné les beaux-arts à Oxford. Et ce John Ruskin était très proche du peintre William Turner. Donc c'était une personnalité
importante
de l'époque.
Alors, la mort de sa mère, avec laquelle il entretenait une relation fusionnelle en 1905, va le marquer profondément. Et puis, de santé toujours fragile, eh bien, il va s'isoler de plus en plus. À partir de 1808, il va composer notamment, alors qu'il est rédacteur pour le Figaro, un grand nombre de pastiches rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard, qui formeront un recueil, Pastiches et mélanges, publié en 1919 à la NRF. Nous vous proposons enfin d'écouter maintenant, hein, si vous voulez bien, un extrait de cette œuvre, Journée de lecture, préface à la traduction de Sésame et les Lys de Ruskin. Alors attendez, excusez-moi parce que du coup je trouve pas. Voilà, journée de lecture. Ah voilà, ça y est.
Ça y est.
Ah là.
Plus de peur que de mal.
C'est ça, je suis mis rouge, je vois plus rien. Hop.
Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage, le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page, ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et pendant lequel nous ne pensions qu'à monter, finir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec amour, que, s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager. Et dire que c'est dans 8 jours Pâques. » Avant le déjeuner, qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe, d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinier qui bordait de briques et de faïences en demi-lune ses plates-bandes de pensées. Ciel trop beau, ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table !» Et rien que pour répondre « Non, merci bien », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir, et, pour dire convenablement « Non, merci bien », lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mère-église, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Ils disaient bien « Je ne veux pas déranger », mais commençaient aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence celui ou celle qui était resté à écrire, et on lui disait « Vous avez fait votre petite correspondance ?» avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et des ménagements, comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants, allait faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner !» Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite. Surtout si la journée était un peu chaude. Chacun montait, se retirait dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées, on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre, sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face, qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours, après déjeuner, fumer sa pipe devant sa porte et dire bonjour aux passants qui, parfois, s'arrêtaient à causer.
Rediffusion d'une émission Principe Actif.
Il décrit bien son amour de la lecture.
Hein. Oui. Hein. Moi, je me rappelle que je disais toujours « Non, mais j'ai pas fini mon chapitre.
» Une rediff, quoi.
Même si je venais de commencer, d'ailleurs.
C'est parce que tu es rusé.
Alors... Du côté de chez Swann, le premier volume de La recherche du temps perdu paraît en 1913. Et donc, pendant la guerre, réformé, il va consacrer la grande majorité de son temps à l'écriture. Et en 1919, il reçoit le Goncourt pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et là, souffrant d'une pneumonie, l'écrivain meurt 3 ans plus tard, le 18 novembre 1922, d'une bronchite mal soignée.
Et oui, il n'avait que 51 ans, hein.
Et donc les tomes suivants de La recherche sont parus entre 1920 et 1927. Alors, longtemps je me suis couché de bonne heure et l'incipite du côté de chez Swann, le premier tome du roman À la recherche du temps perdu de l'écrivain français Marcel Proust. Il s'agit là de l'une des phrases les plus célèbres de la littérature française. Et pour certains, elle résume à elle seule toute la recherche. Alors,
alors on va Philippe, en lire voilà, un peu plus.
Voilà, je te laisse l'honneur de lire cet incipit.
Quel honneur, je tremble. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et... une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non, aussitôt je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscur. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit à la douceur prochaine du retour.
Voilà. Oh, alors, merci beaucoup pour cette lecture.
Oui, alors, un petit éclairage quand même. La métempsychose, je me suis dit, je vais regarder, je ne me souviens plus. La métempsychose, c'est une doctrine selon laquelle une même âme peut animer successivement plusieurs corps, humains ou animaux. Alors là, il y fait donc référence à son réveil, puisque on a entendu que sa personnalité semblait diluée quelques instants dans les objets de ses rêves. Il devient une église. Voilà, petit éclairage.
Très bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Cher professeur.
Je vous en prie.
Alors, La Recherche constitue également une vaste comédie humaine de plus de 200 personnages, quand même. Hein. Donc, il faut s'y retrouver.
C'est pas mal.
Voilà. Alors, bon, bah, j'avoue que moi, j'ai lu que le premier tome. Hein, voilà.
Moi, les deux à peine.
Alors, Proust recrée des lieux révélateurs, qu'il s'agisse des lieux de l'enfance, dans la maison de Tante Léonie, à Combray, ou des salons parisiens qui opposent les milieux aristocratiques et bourgeois, ces mondes étant évoqués d'une plume parfois acide, par un narrateur à la fois captivé hein, et ironique. Alors, ce théâtre social est animé par des personnages très divers, dont Proust ne dissimule pas les traits comiques. Ces figures sont souvent inspirées par des personnes réelles, ce qui fait de La Recherche du temps perdu en partie un roman à clé et le tableau d'une époque. La marque de Proust est aussi dans son style aux phrases souvent très longues, qui suivent la spirale de la création en train de se faire, cherchant à atteindre une totalité de la réalité qui échappe toujours.
Oui, alors ce que tu viens de dire, je trouve que c'est capital, Mireille, parce que tu parles de la, je vais y arriver, la spirale de la création en train de se faire. Et ça, je pense que ça explique en grande partie, on en riait tout à l'heure, on entendait la longueur des phrases. Mais je pense que ça explique bien la longueur des phrases parce qu'en fait, il travaille selon une méthode qui aurait presque pu être prémonitoire pour les surréalistes par exemple. Il travaille selon ce qu'on appelle le flux de conscience. Il suit son flux de conscience, c'est-à-dire que sa pensée s'échappe sur son stylo en gros.
Donc, du coup, il suit sa pensée.
Voilà, ça donne des phrases effectivement parfois qu'il ne devait pas retoucher tant que ça. Voilà, on comprend un peu mieux.
Alors, à noter que le premier tome, hein, du côté de chez Swann, est quand même refusé chez Gallimard.
Un comble.
Sur les conseils d'André Gide. Voilà. Alors, finalement, le livre est édité à compte d'auteur chez Grasset et Proust paie des critiques pour en dire du bien.
C'est incroyable.
Et les éditions Gallimard acceptent le deuxième volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, pour lequel Proust va recevoir en 1919 donc le prix Goncourt.
Alors on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Voilà. C'est quand même un peu fou.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter une nouvelle non achevée. Alors comme ça, vous aurez le loisir d'imaginer ce qui peut se passer après.
Et de l'achever.
Et de l'achever, voilà. Paru dans le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites. Voilà, donc ça c'est paru en 2019. Et donc un ouvrage qu'on peut trouver.
Oui, ils ont retrouvé récemment tout un tas de lettres de Proust. Hein.
Oui,
il y a
aussi,
eu tout, il y a tout,
voilà.
Toute une découverte faite très récemment.
Donc je vous propose donc d'écouter Jacques Lefeld.
Je ne rencontrai plus jamais Jacques Lefeld depuis que j'avais quitté pour Passy le Pont des Arts, où il habite encore. À la fin du mois d'août dernier, comme je traversais le bois de Boulogne pour rentrer chez moi vers 9h du soir, j'aperçus Jacques Lefeld qui se dirigeait vers le Grand Lac. Il m'aperçut et détourna immédiatement la tête et pressa le pas. Bientôt je l'aperçus. Vous qui avez lu ses essais, vous savez l'esprit profond, l'imagination unique de Jacques Lefeld. Mais si vous ne connaissez pas l'affectueuse douceur de son caractère, vous ne comprendrez pas comment j'écartais à l'instant toute idée qu'il pût être fâché contre moi et je supposais seulement qu'il allait à quelque rendez-vous. Les journées suivantes furent belles, je continuai à rentrer chez moi à pied. Tous les jours, je rencontrais Jacques Lefeld. Tous les jours, il m'évita. Au tournant de l'allée de la Reine Marguerite, je l'apercevais de nouveau qui marchait lentement, en long et en large, comme s'il attendait quelqu'un. Il regardait de tous côtés, parfois levait la tête vers le ciel, comme un amoureux. Le quatrième jour, je déjeunais chez Foya avec un ami de Jacques qui me raconta que depuis sa rupture avec la petite danseuse Gigi, rupture au moment de laquelle il avait essayé de se tuer, Jacques avait à tout jamais renoncé aux femmes. Vous comprenez que je souris. Les jours qui suivirent, je ne le rencontrai pas. Un des matins suivants, je lis dans le Gaulois « Notre jeune et célèbre écrivain, M. Jacques Lefeld, part demain pour la Bretagne, où il restera plusieurs mois. Ce jour-là, je le rencontrai près de la gare Saint-Lazare. Je ne devais pas le revoir avant octobre sans doute. Je l'arrêtai.
Je vous demande pardon, mais je pars ce soir à 9h et je veux, avant de revenir dîner, aller jusqu'au bois de Boulogne et je vais vite prendre le train de ceinture.
Je n'étais pas étonné, mais je lui dis, vous iriez plus vite en fiacre.
Hélas, je n'ai plus que 20 sous sur moi.
Je ne voulais pas être indiscret, mais je lui dis, ben, je pourrais vous conduire en voiture, je vous laisserai où vous voudrez.
Eh bien, j'accepte. Mais n'est-ce pas, vous me laisserez à l'entrée du lac, car j'ai besoin d'être seul.
À l'entrée du lac, il descendit et je m'éloignai en voiture. Mais je ne pus résister au désir d'apercevoir de l'allée parallèle à celle à qui mon ami venait faire ses adieux. Le temps passait, je ne la voyais pas venir. Jacques se promenait le long de l'eau, la tête baissée sur l'eau, et tantôt les levant vers une futaie et les ramenant vers l'eau. Tantôt il marchait vite, tantôt ralentissait ses pas. Au bout d'une demi-heure, je le vis revenir, mais non point déçu comme un amant qui a vainement attendu, mais la tête haute, la démarche rapide, l'air glorieux. Je n'y comprenais rien. Il rêvait, puis n'y pensait plus. L'année dernière, mon ami L, qui nommé ministre, vint passer un mois à Paris dans l'hôtel qui est au coin du jardin du Luxembourg. J'allais voir tous les jours chez lui, quand un après-midi, en le quittant, je rencontrais Jacques Lefeld, que je n'avais pas revu et qui paraissait fâché de me rencontrer. Il me quitta rapidement. Je rentrais mécontent. Le lendemain, à la même heure, je le retrouvais. Il voulut m'éviter, je l'arrêtais. La pluie qui menaçait depuis longtemps commença à tomber assez fort. Nous entrâmes au musée du Luxembourg pour nous abriter. Je ne vous ai pas revu depuis le jour où j'ai eu le plaisir d'aller avec vous au bois. Puis-je vous demander sans indiscrétion ce que vous alliez y faire ? Jacques est très timide, il rougit légèrement.
Je vais paraître stupide, mais je vais vous dire où, pour la deuxième fois, je dînais au chalet de Lille, où et où j'étais très triste. Le lac du bois, qui ne m'avait jamais frappé, me sembla si beau que le lendemain, je ne pus résister au désir de retourner le voir. Pendant 15 jours, j'en ai été vraiment amoureux. Je ne savais quel chemin prendre pour ne pas rencontrer de gens, de connaissances, car quand je n'étais pas seul avec lui, il ne me disait rien. Et le jour où vous m'avez conduit était le jour de mon départ. Je ne voulais pas partir sans le revoir encore. Et puis, je voulais, avant de quitter Paris, tirer la conclusion de l'année finie, pour me donner la force de la ressaisir, de la comprendre, de la juger. Rien ne pouvait égaler l'exaltation mélancolique que je goûtais au bord de ces belles eaux dont j'étais épris, et où, ce soir-là, le ciel se reposait si triste entre les cygnes et les barques qui passaient, ainsi que mon esprit détaché de la terre, entre les gazons et les fleurs du bord, plus intense encore à ce moment qui suit le coucher du soleil, violemment réel. Comme le jeune passeur qui, laissant l'autre ramer, était étendu au fond, mon esprit se donnait à la fois le plaisir de la vitesse et du repos et glissait avec agilité sur des surfaces aussi suaves et aussi glorieuses que ces eaux enchantées, déjà rafraîchies par la nuit et vernies encore par la lumière. L'air était si doux qu'il planait sur les eaux. Et n'est-ce pas, l'esprit est un peu comme l'air. Quelque immense espace que vous ouvriez devant lui, il le remplit. Et l'esprit qui souffre d'être comprimé par un interlocuteur, un intérêt ou une muraille trop rapprochée, s'étend joyeusement, royalement, librement, dans les perspectives infinies, et remonte sans effort avec une vitesse enivrante et mélancolique, le cours des eaux et des années.
Puis-je vous amener encore une fois ?
Encore de l'introspection, hein, ce qui est décrit là, hein, c'est la description de l'esprit, c'est quand même pas évident. Bah, oui.
Alors, bon, à savoir bien sûr que l'influence de son homosexualité sur son œuvre semble pour sa part importante, puisque Marcel Proust sera l'un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de l'homosexualité, masculine et féminine, dans ses écrits plus tard.
Ben oui, finalement, il était très moderne, c'est ce qu'on se disait, hein, sur à moult points de vue, hein, ce Marcel Proust.
Bah, alors, voilà une petite description de Léon Daudet qui décrit Proust arrivant au restaurant Weber en 1905. Alors,
voilà, alors Léon Daudet, personnage peu recommandable, mais qui écrivait bien, tout de même.
Alors c'était le fils,
non ? C'était le fils aîné d'Alphonse Daudet, mais voilà. C'était un journaliste politique d'extrême droite, antisémite, etc. Mais on va quand même le lire, parce qu'il
bah oui,
décrit bien Proust. Vers 7h.